Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine-Nar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le langage et la pensée est un essai de linguistique et de philosophie de Noam Chomsky, issu de trois conférences prononcées à Berkeley en 1967 et organisées autour du passé, du présent et du futur de la recherche sur le langage. Dans cette édition française enrichie, Chomsky expose les fondements de la linguistique générative et interroge ce que les langues révèlent de la nature mentale humaine. Son point de départ est net, le langage ne se réduit pas à un moyen de communication ni à un répertoire de comportements appris. Il constitue une faculté créatrice, étroitement liée aux capacités cognitives propres à notre espèce. Le livre replace cette position dans une longue histoire intellectuelle, notamment celle du rationalisme cartésien, puis examine les enjeux théoriques et méthodologiques de son programme. Il ne fournit pas un manuel simplifié de grammaire, mais une réflexion dense sur les rapports entre structure linguistique, acquisition enfantine, connaissance et esprit. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le langage comme faculté mentale plutôt que comme simple instrument social. La thèse directrice de Chomsky est que le langage sert avant tout à organiser et exprimer la pensée. Cette affirmation ne nie pas son usage social. Mais elle déplace la question décisive, comment un individu peut-il comprendre et produire une quantité indéfinie de phrases, y compris des phrases jamais entendues auparavant? Pour Chomsky, cette productivité ne peut pas être expliquée par la seule imitation, par une accumulation de formulations mémorisées ou par des habitudes façonnées de l'extérieur. Parler exige la maîtrise implicite de principes qui permettent de construire et d'interpréter des expressions nouvelles. L'étude linguistique devient ainsi une voie vers la connaissance de mécanismes mentaux plutôt qu'une description des seules conventions observables dans une communauté. Cette perspective conduit à distinguer la connaissance interne que possède un locuteur de ses performances effectives, lesquelles peuvent être limitées par la mémoire, la fatigue ou les circonstances. Le livre présente donc le langage comme un objet naturel, une capacité humaine dont les propriétés demandent une explication au même titre que les autres facultés cognitives. Cette orientation fonde le dialogue que Chomsky instaure entre linguistique, psychologie et philosophie de la connaissance. Deuxièmement, la grammaire générative est le problème de la créativité linguistique. La grammaire générative désigne le projet de caractériser le système de règles et de principes qui rend possible la production d'un nombre potentiellement illimité de phrases. Le terme génératif ne renvoie pas à une machine qui récite des énoncés, il vise une théorie capable de rendre compte de la créativité ordinaire des locuteurs. Une personne compétente peut reconnaître qu'une phrase est bien formée, comprendre des relations de sens complexes et formuler un énoncé inédit sans avoir reçu une instruction explicite pour chaque cas. Chomsky prend ce fait comme une donnée centrale, souvent maltraitée par les approches qui assimilent la langue à un ensemble de régularités superficielles. La recherche doit alors identifier des structures abstraites et des contraintes qui expliquent les jugements linguistiques, plutôt que seulement classer des phrases à tester. Dans ce cadre, la distinction entre structures profondes et formes plus directement observables a eu une importance historique. Elle visait à expliquer comment des expressions différentes peuvent entretenir des relations syntaxiques et sémantiques étroites. Le livre éclaire surtout la portée du programme. Comprendre une langue consiste à expliquer la compétence qui permet de dépasser continuellement les exemples déjà rencontrés. Troisièmement, la grammaire universelle face aux défis de acquisition par les enfants. Un des arguments les plus importants de Chomsky concerne l'acquisition du langage chez enfants. Les enfants parviennent rapidement à maîtriser des aspects complexes de leur langue, alors que les données auxquelles ils sont exposés sont limitées, imparfaites et ne fournissent pas toujours de corrections explicites. Ce décalage entre expérience disponible et richesse de la compétence, acquise selon lui, a postulé une dotation cognitive spécifique. La grammaire universelle ne doit pas être comprise comme une liste de phrases identiques présente dans toutes les langues. Elle renvoie plutôt à des principes et à des possibilités structurelles qui encadrent l'acquisition de toute langue humaine. Chaque langue met en œuvre ses ressources selon ses propriétés propres, mais acquisition ne part pas de rien. Cette hypothèse s'oppose aux explications qui font du langage le produit exclusif de l'apprentissage général ou de conditionnement. Elle ouvre également une question empirique exigeante: quels éléments relèvent de la faculté de langage et quels éléments dépendent de l'exposition, du développement ou de la diversité des langues. Chomsky ne transforme pas cette question en réponse facile. Il propose un cadre destiné à expliquer pourquoi l'acquisition linguistique est à la fois remarquablement précoce, créative et relativement uniforme chez les humains. Quatrièmement, du rationalisme cartésien à une enquête moderne sur l'esprit humain, les conférences accordent une place importante aux antécédents philosophiques de la linguistique générative. Chomsky relie notamment la tradition rationaliste associée à Descartes, non pour la reproduire à identique, mais pour retrouver une intuition durable, les capacités humaines de pensée et de langage manifestent une créativité qui résiste au modèle purement mécanique de comportement. Cette généalogie sert un objectif critique. Elle rappelle que les débats contemporains sur inné, acquisition et nature de l'esprit ont une histoire plus longue que les querelles techniques entre écoles linguistiques. Toutefois, le livre ne se contente pas de faire histoire des idées. Il soutient que les intuitions philosophiques doivent être reformulées en hypothèses susceptibles de guider une enquête empirique sur les grammaires et sur les facultés cognitives. La référence au passé permet ainsi de mesurer les limites de deux simplifications opposées attribuées au sujet une puissance mentale sans contrainte, ou réduire la pensée à des associations élémentaires. Chomsky cherche une position où les capacités créatrices ont une base naturelle et une organisation étudiable. Cette articulation entre philosophie et recherche linguistique explique la densité d'ouvrages. Les concepts ne sont pas présentés comme des slogans, mais comme des outils pour poser plus rigoureusement le problème de la connaissance humaine. En dernier lieu, le futur de la linguistique dans le cadre de la biolinguistique, la partie prospective du livre défend une conception ambitieuse de la linguistique. Si le langage est une faculté humaine dotée de propriétés spécifiques, son étude doit contribuer aux sciences de l'esprit et, plus largement, à une compréhension biologique de notre espèce. La biolinguistique prolonge cette idée en considérant le langage comme un objet naturel dont il faut expliquer émergence, développement et contrainte. Chomsky ne promet pas une théorie achevée, il insiste au contraire sur l'étendue des problèmes encore ouverts. Cette prudence est importante, car elle distingue un programme de recherche d'une doctrine fermée. Les questions pertinentes portent sur la forme des grammaires possibles, sur les mécanismes qui rendent acquisition possible et sur les liens entre langage pensé et autres capacités. Le livre invite aussi à examiner les méthodes employées. Une théorie utile ne se contente pas de décrire des faits dispersés. Elle doit formuler des principes explicatifs et accepter le risque d'être corrigée par de nouvelles données. Cette exigence rapproche la linguistique de domaines voisins sans effacer la spécificité de son objet. La portée du texte réside donc moins dans une prévision précise que dans une orientation « étudier le langage » afin de clarifier les conditions naturelles de la créativité et de la connaissance humaine. En conclusion, le langage et la pensée convient surtout aux lecteurs disposés à suivre une argumentation théorique étudiant en linguistique, philosophie, psychologie ou sciences cognitives, mais aussi lecteurs déjà curieux des débats sur acquisition du langage et nature de l'esprit. Il sera moins adapté à qui cherche une introduction pratique aux langues, une synthèse récente de toutes les recherches cognitives ou un exposé sans vocabulaire spécialisé. Son bénéfice intellectuel tient à la netteté des problèmes qu'il impose comment expliquer la créativité linguistique. La rapidité de acquisition enfantine et la connaissance implicite des structures grammaticales. Même lorsque le lecteur ne partage pas toutes les réponses de Chomsky, il dispose de critères plus précis pour évaluer les théories concurrentes du langage. Par rapport aux ouvrages généralistes sur communication ou psychologie du langage, ce livre se distingue par son ambition philosophique et historique. Il ne traite pas la langue comme un simple code social, ni la pensée comme un effet vague du discours. Il relie une théorie de la grammaire à une conception de la faculté humaine de connaître, tout en inscrivant ce projet dans la tradition rationaliste et dans le développement des sciences cognitives. La forme de conférence donne au texte une unité argumentative claire, tandis que les compléments de l'édition permettent de situer des notions telles que grammaire universelle, structure profonde et biolinguistique. Il demeure ainsi une porte exigeante mais durable vers le programme chomskyen. Si vous souhaitez soutenir Noam Chomsky, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.